Revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 3, année 2016, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bon alors, j'ai eu des retours sur le nouveau générique. Une auditrice m'a dit, c'est nul.
Comment dire, non, c'est pas vrai.
Bon, on va peut-être faire mieux sur le prochain, hein.
Il y en a encore en cours. Vas-y Nicolas, fais-nous un meilleur générique. En tout cas, en attendant ça, et pour que vos oreilles se reposent, Manu, tu veux nous parler du sommaire.
Oui, un classique, hein. Il n'y a pas de choses si nouvelles que ça. Forcément, hein, de semaine en semaine. Donc l'économie collaborative, la priorité du logiciel libre dans les administrations, la migration de Munich au logiciel libre, GitHub, un truc un peu volumineux, le guide de l'open access pour les nuls, petite récap sur les 10 ans du Parti Pirate, et pour finir, un article sur Microsoft de Véronique Bonnet.
Ledevoir.com, les petits de l'économie collaborative s'organisent à un article de Jeanne Corriveau. Donc, Le Devoir, c'est le Québec. Hein.
C'est le Québec, et l'économie collaborative, c'est Uber, Airbnb, qui sont traités par l'auteur de l'article de Predator.
Mais c'est vrai que Uber et Airbnb, ça a quand même pas mal défrayé la chronique. Hein. Tout le monde leur tape dessus sur tout ce qu'ils font, et c'est vrai qu'ils se disent collaboratifs ou autres, mais bon, derrière, c'est quand même des grosses usines de business et un peu du foutage de gueule par moment. Voilà.
Californie, Uber, un coin où ils agissent depuis longtemps, ils ont des procès par des chauffeurs qui demandent à être traités comme des salariés parce qu'en gros ils disent regardez dans la situation dans laquelle on n'a aucune indépendance, aucun choix, donc nous sommes des salariés. Et j'ai lu récemment un article sur Airbnb ou un truc équivalent. Il y avait des études qui montraient qu'il y avait une grosse partie des locations qui étaient en fait des locations à plein temps d'appartements qui ne servaient qu'à ça, et que donc du coup c'était de l'esquive de fiscalité et c'était de l'hôtellerie illégale. Et donc effectivement il y a toute une série de choses comme ça qui sont très critiquées.
On est à la limite, hein. Ça va être pareil avec une voiture qui serait en permanence en mode location.
Voilà, il y a eu aussi des critiques sur le covoiturage en disant que ça devenait une espèce de grosse usine avec des gens qui faisaient ça pour l'argent et pas uniquement de partager des sièges. Quoi.
Mais par ailleurs, les économistes par exemple, je regarde de temps en temps des émissions qui terminent en BF et qui commencent en M.
Je vois pas de quoi tu parles.
Voilà.
Je regarde
pas
la télé.
Les gars, ils te disent que non, on va forcément ubériser l'économie, ça les inquiète pas. Et pour eux, c'est le sens de l'histoire. C'est juste que des boîtes comme Uber, ce ne sont pas des boîtes qui font de la voiture, ce sont des boîtes juste d'informatique, ce qui fait que on en parle un petit peu plus dans nos revues de presse, hein, nécessairement.
Alors, les économistes, disons que ça va tout à fait dans la logique des économistes néolibéraux qui veulent déréglementer à mort, etc. On est vraiment dans cette droite ligne, et l'argument de dire c'est le sens de l'histoire, hein, on l'entend depuis 30 ans, le fameux TINA, There is no alternative, et rien n'est moins sûr. Et là, donc, cet article nous parle de gens qui font de l'économie collaborative, mais à petit niveau.
Voilà, là, c'est des Fab Labs, hein, et puis en particulier, là, on parle donc du groupe I180, qui a le but de faire de la vraie économie collaborative, du vrai partage et autres, et pas juste une façade business comme Uber ou Airbnb.
Le problème n'est pas tant le business, hein, le problème c'est que en fait c'est des systèmes de contournement de la fiscalité, d'exploitation encore plus avancée, on n'est plus du tout dans cette notion de partage. Après, s'il y avait un truc de réel partage, de réelle économie du partage qui permet de faire du bénéfice, pourquoi pas ?
Il y a un partage, c'est le partage de ceux qui mettent en commun leur matériel, c'est juste que c'est tellement à l'avantage de ces grosses boîtes américaines en général qui valent et qui sont valorisées des milliards et des milliards, qu'il y a un abus de ce côté-là.
Voilà, en gros, le partage, c'est certains prennent le travail et d'autres l'argent, quoi.
Il y a un peu de ça.
Next Impact, les députés refusent la priorité du logiciel libre dans les administrations, un article de Xavier Bern.
Donc ça, c'est sur le projet de loi numérique, hein, où, malgré que ça a été très fortement plébiscité lors de l'appel à vote qui avait été ouvert aux citoyens.
On en a parlé longuement, ça avait déjà été dégagé. Hein,
ça avait déjà été dégagé, c'était revenu par la petite porte avec des amendements divers et variés.
La grande porte.
Ouais,
c'est les députés quand même.
Et malheureusement, il y a eu un énorme débat, hein, ça a beaucoup trollé dans l'hémicycle ces dernières semaines, et malheureusement, la priorité au logiciel libre n'a pas été retenu, ils ont préféré une simple...
Dans l'administration. Hein.
Ou dans l'administration. Et ils ont préféré une simple incitation, en fait, à l'usage, plutôt qu'une priorité. Donc c'était pas mal, mais ça ne suffira pas, puisque comme l'énorme argument qui était avancé, c'est que si on n'a pas de priorité, en fait, on se fait justement bouffer par les gros, Microsoft et autres, et qu'on a... Le libre n'a aucun moyen de combattre ça. Et donc si on ne fait qu'inciter, les gros lobbies continueront à faire leur travail de grignote, et nous laisserons que les miettes à la fin.
Je crois que c'est Lionel Tardy, hein, qui a fait remarquer ça, et qui a dit qu'on encourage depuis très longtemps, et que ça n'a à peu près aucun effet. fait. Alors, ce que je trouve positif dans cette histoire, même si c'est une défaite, c'est que le nombre de députés qui ont défendu cet amendement est plus nombreux que par le passé, donc on semble gagner de plus en plus de députés sur ces sujets-là.
Et il semblerait même que la discussion et les idées qui sont mises en avant se sophistiquent et donc deviennent un peu plus pertinentes. Il y a de plus en plus de députés qui ont l'air, dans une certaine mesure, c'est toujours très relatif, de maîtriser de mieux en mieux ce genre de sujet, de comprendre. Et pour le coup, bon, ils ont peut-être été trop loin, mais là, ils sont en train de partir sur l'idée de faire un OS souverain, qui est quelque part une approche intéressante. On a un petit peu peur, hein, clairement.
Puis ils veulent faire aussi un clavier souverain, un cloud souverain. En fait, on va avoir du souverain partout. Et puis, et l'OS souverain existe déjà, hein, puisque les Ubuntu, il y a des versions d'Ubuntu en fait gérées par Ubuntu FR qui ont été complètement retravaillées.
Il y a Mageia,
on a même le cloud souverain. Il y a même Marcel maintenant qui est apparu récemment. Une petite blague, la technologie Docker en fait qui a été renommée Marcel pour Francis et tout ça. Donc c'est assez trollistique sur internet en ce moment là-dessus.
On peut rappeler qu'au Parlement, ils ont utilisé, et je crois que ça doit être encore le cas, des logiciels qui étaient libres, sous système d'exploitation libre. Ça avait été installé et configuré et utilisé. Donc ils n'étaient pas en reste finalement, les députés, dans leur utilisation.
Alors bon, certaines personnes disent que ce n'est pas un échec, puisqu'il y a quand même cet encouragement à l'utilisation du libre, ce qui n'est pas juste un refus. Voilà, d'autres disent que ce ne sera pas suffisant. On verra bien ce que ça donne.
Ah, ils sont planqués derrière des peurs que ça ne passe pas au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État. C'est moche parce que le Conseil d'État a déjà validé que dans les appels d'offres, les marchés publics, on pouvait mettre du logiciel libre.
Alors, ce qui m'étonne, c'est que c'est un argument qui n'est pas repris dans l'article et que je ne vois pas à droite à gauche. Donc, c'est quand même bizarre. Silicone.fr, la facture salée de Munich pour quitter Windows, un article de Jacques Cheminat.
Alors, on en a déjà parlé pas mal. Hein. Munich, ils sont passés au logiciel libre il y a déjà plusieurs années. Alors, pour l'essentiel de leur poste, c'est une grosse ville. Il y a pas mal de gens qui bossent dans l'administration locale.
Ils ont fait leur propre version d'une distrib qui s'appelle Linux.
Voilà, et qui est qui a l'air de faire l'affaire, mais il y a des histoires de gros sous, et parce que une mairie aussi importante, ça fait exemple, ça fait tâche. Microsoft s'est déplacé plusieurs fois pour essayer de les convaincre de rester sous leur système.
En plus de ça, il y a eu un changement de majorité, et qui du coup, la nouvelle majorité avait bien envie de dégager tout ce qu'avait fait l'ancienne, mais ils se sont aperçus que ce serait vraiment beaucoup, beaucoup trop cher.
Après, il faut faire un peu gaffe au titre de l'article, hein, parce que c'est un peu piégeux en disant que la facture salée, on a l'impression que ça a coûté très cher de migrer de Linux, de Windows à Linux, alors qu'en fait, ils disent effectivement, ça a eu un coût, hein, parce qu'on va pas se cacher, ça coûte quand même 23 millions d'euros pour migrer 16 000 postes de travail. C'est quand même très conséquent, mais les analystes ont dit que si on avait été resté sous Office et sous Windows, ça aurait coûté 34 millions. Donc en gros, ça coûte moins cher d'avoir fait la migration sous Linux que d'être resté sous l'ancien système de Microsoft.
Alors, d'avoir changé de système d'exploitation.
D'avoir changé de système d'exploitation.
Ils étaient sous XP, qui n'est plus maintenu. Alors. Voilà, et donc le cas au niveau de la facture salée, c'est 1500 postes qui restent, qui utilisent des applications qui n'existent, sans doute des applications métiers très particulières qui n'existent que sous Windows.
Ouais, des pauvres macro Excel, j'imagine.
Non, il existe quand même des applis métiers spécifiques, etc., sur des marchés de niche, et on peut imaginer effectivement que ça n'existe que sous Windows. Alors, ils pourraient faire des machines virtuelles, etc. En tout cas, là, ils envisagent de migrer ces postes parce qu'ils ne peuvent pas rester sous XP, et la facture qu'ils annoncent pour migrer 1500 postes de Windows à un autre OS qui sera probablement un autre Windows, c'est 11 000 euros par salariés, donc ça fait un budget.
C'est juste énorme, ce serait quoi, 3-4 mois de travail? Je comprends juste pas, mais effectivement, ça coûte de l'argent de migrer d'un vieux XP moribond vers un autre truc qui sera moribond rapidement.
Ça coûte en gros 10% du budget total pour migrer 1% du parc. Enfin, ça donne quand même un ordre de
16,6 millions d'euros sur 4 ans.
En même temps, j'imagine, Microsoft va pas leur faire des fleurs et va pas leur abaisser les tarifs, c'est mal barré pour eux.
ZDNet France, GitHub, les utilisateurs déçus du manque de support, un article de la rédaction. Donc GitHub, c'est un truc pour les informaticiens.
Alors c'est la plateforme, le réseau social de développeurs qui font du libre et de l'open source, donc c'est très connu dans le domaine pour les informaticiens, et même Microsoft a déposé des gros composants de Windows sur GitHub en logiciel libre.
Alors le truc, c'est que GitHub est massivement utilisé par des développeurs de logiciels libres, mais n'est pas libre.
Voilà, c'est pas du tout libre, donc si jamais vous voulez sortir de GitHub...
Un petit peu quand même.
Un peu, enfin, en tout cas, le code n'est pas libre, on peut l'utiliser gratuitement, librement, et faire ce qu'on veut avec, mais par contre, on peut pas le remonter chez soi, on peut pas sortir
Git,
ces données-là.
C'est pas libre à la base.
Git est libre, mais Git n'est qu'une technologie utilisée par GitHub, mais par contre, les fonctionnalités, c'est-à-dire que si vous l'utilisez juste pour Git, ça marche très bien, et vous êtes libre, mais si vous l'utilisez pour son wiki, ou son gestionnaire de bugs,
je crois qu'il y a
autre,
surtout les éléments de gestionnaire de bugs, parce qu'il me semble qu'ils ont des briques,
il y a des briques,
de manière parcellaire, sont libres, mais c'est pas toujours simple, et en tout cas, on peut pas remonter à côté une autre infrastructure.
On peut pas remonter l'infrastructure, donc il y a eu déjà beaucoup de grogne là-dessus, il y a eu peu de trolls dans les coins, parce que utiliser du logiciel non libre pour faire du libre, c'est quand même un peu bizarre, hein, le noyau Linux se trouve sous GitHub.
On pourrait dire que c'est la philosophie open source, hein, pour pour le coup, puisque l'open source supposait mettre en avant le pragmatisme, on utilise ce qu'il y a de mieux, et effectivement, GitHub est une très bonne plateforme, c'est juste que malheureusement, ben, on est bloqué, et là, pour le coup, les utilisateurs ne sont pas contents, parce que la société qui est derrière ne communique pas très bien avec eux, donc malgré leur plaisir d'utiliser GitHub, ils se plaignent de ce manque de communication.
Voilà. Puis donc, ils ont aussi relevé des problèmes, hein. Par exemple, ils critiquent un peu le gestionnaire de bugs qui est pas très bien fait, et le problème, c'est que justement, on n'a pas le code source de GitHub, donc on ne peut pas corriger, on ne peut pas proposer d'évolution, et comme GitHub ne souhaite pas les faire, et c'est un peu une fin de non-recevoir à chaque fois qu'on pose des questions à la société derrière ça, bah ça bouge pas, alors que si on avait du code libre, bah au moins les développeurs qui en auraient envie d'un bug tracker plus efficace, bah ils le coderaient, et puis GitHub pourrait en profiter, alors que là, bah on est pieds et poings liés.
Alors en tout cas, ça fait le plaisir d'autres sociétés ou d'autres projets. Alors, Gitorius a changé de boutique il n'y a pas si longtemps, mais c'était une alternative. Il y a GitLab qui produit, alors c'est une société qui héberge et qui produit une version de GitLab communautaire qui est réutilisée et repackagée par d'autres, notamment sur Frama. Framasoft héberge une version de GitLab, donc on sait du libre et ça marche pas trop mal.
Donc les alternatives existent, on espère que les développeurs libres vont passer de l'un à l'autre. Actualité.com, le guide de l'open access pour les nuls et au bénéfice du grand public, un article de Marie Lebert.
Alors moi perso, j'ai pas eu le temps de lire ce truc.
C'est pas un article. Hein.
C'est un livre, on dirait quoi.
C'est vrai que ça fait plusieurs. Ça fait combien, 50 pages. Enfin voilà, ça fait une récapitulation en fait de ce que c'est l'open access, de tout ce que.
C'est voilà, un truc très détaillé. Alors c'est quoi l'open access pour le coup?
Bah, l'open access, c'est vraiment d'avoir accès à toutes les données en fait, de pouvoir dire on met à disposition les revues, les archives, toutes les données.
Dans le domaine de la publication.
Dans le domaine de la publication scientifique. Voilà, c'est pas pour autre chose. On met vraiment tout à disposition et comme ça, on peut réutiliser les données, on peut réutiliser les articles, on peut vraiment avoir de l'accès à la culture scientifique en général, et bah voilà, c'est quelque chose qui est un peu en mouvement en ce moment, c'est encore difficile en France, hein. On a eu des gros débats sur l'open data ou...
Open data, open access, c'est pas exactement la même
chose. C'est pas exactement la même chose, mais...
Non, alors, dans le domaine scientifique, on a effectivement une problématique dont on entend parler depuis très longtemps, qui est qu'il y a des sociétés qui font de la publication scientifique, qui ne payent pas les auteurs, qui en général ne payent pas les gens qui corrigent les articles, mais qui en revanche revendent très cher les abonnements, et se font un maximum de pognon.
Elsevier, alors, je sais pas si on prononce comme ça, mais il paraît qu'ils se font des couilles en or. Ça
coûte des gonades en métal précieux, s'il te plaît.
C'est ça. Et en fait, ils sont revendus à des librairies, à des bibliothèques universitaires. Et ça coûte très cher de s'abonner à leurs différentes revues. Et si tu n'es pas abonné à leurs revues, bah, t'es mal vu parce que bah, t'es pas au top de la
voilà.
Science.
Puis, si tu veux publier, il faut publier chez eux parce que sinon, donc, c'est censé pas être sérieux.
Voilà, hein. Ça a l'air d'être juste horrible, de coûter très cher. Et donc, il y a des alternatives qui se mettent en place. Allez jeter un œil à ce petit article minuscule. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes.
En tout cas, si le sujet vous intéresse, c'est vraiment la référence.
Et sur le sujet, on citera aussi Aaron Schwartz, hein, qui était un énorme activiste, qui avait justement dit bah, j'en ai ras-le-bol de payer des articles, donc je les ai tous récupérés, puis je les ai mis à disposition. Et bah, forcément, il s'est pris tous les ayants droit sur le dos, ça a été assez catastrophique pour lui, puisqu'il a même fini par se suicider, tellement la pression médiatique et juridique était énorme. Et voilà, ça montre bien qu'il y a un vrai problème, et qu'il a préféré mettre sa vie en péril pour publier les articles scientifiques, plutôt que de les laisser dans les mains de gros groupes financiers dégueulasses.
L'Obs, le parti pirate à 10 ans et plus beaucoup dedans, un article de Nicolas Falampin.
Bon, moi j'ai l'impression qu'il met les clés sous la porte, le parti pirate a 10 ans et il a déjà bien vécu et il s'en est pris déjà plein les dents justement, il a l'air d'avoir souffert. Ok, là il parle pour lui-même et pour le parti, ça a l'air d'être horrible.
C'est vrai qu'ils étaient plutôt partis assez fort, hein, surtout en Norvège je crois, où ils avaient fait des gros scores, ouais. Et en Allemagne où ils avaient fait des gros scores, donc tout le monde dit que ça allait être la révolution et compagnie, puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des guerres intestines, qu'il y avait eu des conflits ou des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Donc c'est vrai que on s'attendait à une révolution de la politique et puis on s'est vu qu'au final ils se sont juste réduits à ce que les politiques faisaient déjà aujourd'hui.
Bon, faut avouer qu'ils se sont battus face à des systèmes qui leur permettaient pas d'exister. Nous en France notamment, on a un système hautement majoritaire. Un petit parti qui démarre, il a toutes les peines du monde à le faire. Il aurait fallu qu'il s'allie avec d'autres. C'était pas l'optique.
Notamment pour la question de l'argent, parce qu'il faut quand même des budgets conséquents. Et l'article est intéressant parce que au-delà de la question du parti pirate, il parle de qu'est-ce que c'est d'essayer de monter un petit parti, quelles sont les erreurs qu'on peut faire, en quoi le contexte effectivement est difficile. Et c'est vraiment intéressant.
Moi j'espère qu'il va continuer. Les idées qui sont défendues par le parti pirate, on aime bien en général. Hein. Clairement, on partage pas mal de choses avec eux. On attend de voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Moi j'aimerais bien voir des gens un peu motivés, un peu motivants. Ça peut être sympa.
Humanité.fr, Microsoft, César et les Grammairiens, un article de Véronique Bonnet.
Véronique Bonnet, donc administratrice de l'April.
Et philosophe.
n'est-ce pas, qui parle bien et qui parle, bah, pour nous, ça fait du bien.
Moi, malheureusement, je n'ai pas lu cet article, donc je vais sécher cette fois-ci.
En fait, elle revient sur l'actualité, avec ce dont on parlait tout à l'heure, donc le fait d'avoir jeté à l'Assemblée nationale la priorité au logiciel libre, le fait qu'il y ait eu l'accord Microsoft Éducation nationale.
Sachant qu'elle est prof, hein, elle connaît bien le sujet.
Moi, ce week-end, j'ai rencontré quelqu'un qui a une boîte dans l'informatique et qui vendait des prestations pour mettre du libre dans une école privée. Et suite à cet accord, son client a décidé de repasser sous Microsoft. Donc là, on a une entreprise qui faisait du libre et qui a perdu des marchés.
Une entreprise française, monsieur.
Voilà.
Et effectivement, on n'aide pas l'économie locale, on n'aide pas le développement des compétences locales, parce que on déporte tout ça sur des entreprises américaines qui passent par l'Irlande. C'est pas beau. Donc là, elle nous aligne les arguments qui montrent qu'il y a vraiment un abus.
Et plus centré sur la liberté que sur la question de business qu'on
évoque
maintenant.
Elle convoque Kant, César pour parler un petit peu de tous ces sujets.
Ce qui est intéressant, c'est qu'avec sa culture extensive, elle va chercher une référence qui ressemble à la situation dans laquelle on est aujourd'hui et du type, vous dites vous n'êtes pas prêt pour la liberté parce que c'est finalement le message que nous envoie le ministère. Hein, on ne va pas donner la priorité au libre, vous n'êtes pas prêt pour ça. Et donc, elle nous fait cette petite référence pour remettre dans un contexte plus large. Et donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Alors, avant de se quitter, il faut qu'on parle de Libre à toi, qui est une nouvelle radio, une web radio qui s'est montée et qui nous diffuse également. Donc, on est maintenant diffusé sur une radio supplémentaire. Ça fait plaisir. Merci à vous.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.